Merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. Je suis maintenant en compagnie de Philippe Mendès. Bonjour.
Bonjour.
Galeriste, marchand d'art, collectionneur, professeur à l'école du Louvre, conseiller artistique du prince Amin Aga Khan, infatigable chercheur du beau. Vous êtes né en 1977, enfant d'un couple d'immigrés portugais. Vous avez étudié le droit à la Sorbonne pendant 4 ans, puis l'histoire de l'art pendant 6 ans à l'école du Louvre et dans les musées du Vatican à Rome. Vous avez ouvert votre galerie en pleine crise financière de 2008 au cœur du triangle d'or de la rive droite parisienne, dans le 8e arrondissement très précisément. Vous vous intéressez particulièrement à la peinture française, italienne et espagnole du 16e au 19e siècle, et il vous tient à cœur également, c'est peut-être même votre ministère artistique, disons, il vous tient à cœur de faire connaître la peinture portugaise à laquelle vous avez déjà d'ailleurs consacré plusieurs expositions. Ma première question, si vous le voulez bien, pour commencer notre entretien, sera très simple et assez vaste. Quand et comment avez-vous, Philippe Mendès, choisi de faire du beau votre espace de travail quotidien?
Vaste question, la plus compliquée peut-être à me poser. En tout cas, vous êtes bien documenté sur moi. Quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé, je ne sais pas vraiment, je crois que je suis peut-être né avec ça. En fait, durant mes études de droit, très rapidement quand je suis rentré à l'université à Paris, j'ai fréquenté des amis qui étudiaient avec moi, qui s'intéressaient beaucoup aux arts décoratifs. Parfois manquait d'informations, manquait de repères artistiques pour pouvoir rentrer dans les conversations des dîners parisiens sur ça. J'ai commencé donc à lire davantage sur l'art, sur les arts décoratifs. Tout a commencé avec le mobilier, à vrai dire. Et je suis tombé un petit peu comme obélisque, je suis tombé un petit peu dans le chaudron. Et je me suis intéressé de plus en plus. J'ai lu, je me suis documenté de plus en plus. Et très vite, je suis venu à la peinture et là c'était irréversible, je ne pouvais pas faire autre chose, donc j'ai continué quand même mes études de droit tout en m'inscrivant à l'école du Louvre. Un ami de la fac qui en avait un peu ras-le-bol aussi du droit m'a dit qu'il allait passer le concours de l'école du Louvre. Je me suis dit tiens, je vais le faire aussi, mais sans y penser vraiment, hein. Mais j'avais envie d'essayer pour voir si toutes mes lectures avaient déjà un sens. Et j'ai passé le concours, presque les mains dans les poches. Je l'ai eu. Très surpris à la rentrée, j'ai vu que mon nom était dans la liste des admis, donc je me suis dit c'est peut-être un signe, et je me suis consacré pleinement depuis à l'art, et à l'histoire de l'art.
Et comment s'est passée votre rencontre avec la peinture portugaise, très précisément?
Avec la peinture portugaise, avec l'art en général portugais. À vrai dire, ma spécialité, quand je suis rentré à l'école du Louvre, c'était la peinture, école étrangère, surtout italienne. Je me suis spécialisé davantage dans la peinture italienne du XVIIe siècle. Je m'y suis même pleinement consacré. Après mes études à l'école du Louvre, je suis rentré au musée du Louvre. J'ai travaillé durant quelques années au Louvre. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'étais portugais et que je connaissais mal l'art portugais, parce que mes amis, donc les conservateurs au Louvre et des gens qui travaillaient au département scientifique du Louvre, me posaient souvent des questions sur l'art portugais et je me rendais compte que je n'arrivais pas vraiment à y répondre. J'étais comme eux, je ne connaissais pas grand-chose à l'art portugais, parce que c'est finalement ce qui se passe en France, c'est, et à l'étranger d'ailleurs, en dehors du Portugal, il y a une vraie méconnaissance de l'art portugais, par les professionnels de l'art aussi, et je me suis rendu compte que j'étais au même niveau qu'eux, que je ne savais pas grand-chose, mis à part les quelques visites que je faisais avec mes parents quand j'allais au Portugal, de musées ou châteaux, monuments, je ne connaissais pas grand-chose, c'était toujours un peu survolé, et je n'arrivais pas à leur répondre. Par contre, c'est quand je me suis mis à aller de plus en plus au Portugal, à visiter les musées, à acheter des livres, à me documenter, et j'ai découvert finalement la richesse que l'on a, culturelle portugaise, que l'on a dans notre pays, et qui était complètement méconnue. Évidemment, étant au Louvre, je me suis rendu compte que au milieu de toute la peinture française, italienne, hollandaise ou autre école, ben il n'y avait pratiquement pas de peinture portugaise. Et il y en avait un exposé à l'époque, perdu dans les salles espagnoles. C'est le tableau de Baltasar Gomes Figueira, qui est le père de Josefa d'Obidos, et que finalement il y avait peu matière pour parler d'art portugais en France, et c'est là que je me suis dit tiens, il faut peut-être faire quelque chose pour l'art portugais, et qu'il est important maintenant d'ouvrir les portes de l'art portugais à l'international. Et depuis, je me suis consacré.
Mais alors, que se passe-t-il avec la peinture portugaise? Pourquoi je ne suis pas capable de citer un seul peintre portugais, une seule peinture portugaise, à part peut-être Amadeu de Sousa Cardoso ou Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego? Pourquoi nous, la population non experte, ne connaissons rien à la peinture portugaise?
Il y a beaucoup de raisons, hein, bien évidemment, parce qu'on a l'impression que vu de France, on est loin et donc il y a des raisons presque géographiques à ne pas connaître la peinture portugaise. Mais le problème, c'est que je crois que même à l'intérieur du pays, au Portugal, il y a une vraie méconnaissance de notre art, de l'art portugais. Là, les raisons sont très nombreuses, elles sont bien évidemment, pour une grande partie, du point de vue de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation artistique au Portugal, là, du point de vue portugais, hein, j'entends. Donc, les gens sont peu habitués à rentrer dans les musées. Je crois qu'il y a un vrai travail, un travail qui n'est pas fait comme il faut par les professionnels de l'art portugais, par les musées, mais également du point de vue de la formation. Il y a peu de dialogue entre les musées portugais et les musées internationaux, peu d'échanges, bien qu'ils prétendent au contraire, ça n'est pas le cas, et ce qui fait que finalement, on divulgue peu l'art, tant au Portugal qu'à l'étranger. Alors en France, c'est évidemment normal, parce que rarement il y a des expositions ou des publications en français ou même en anglais sur l'art portugais, mis à part peut-être un peu en art contemporain, parce que certaines galeries d'art contemporain en France ou à l'étranger font des expositions d'artistes portugais, mais en dehors de ça, peu de choses se passent sur le point de vue culturel. Je parle des beaux-arts, hein, parce qu'en termes de théâtre, cinéma et autres, ce n'est pas la même chose. Ou musique, c'est plus actif. Mais pour les beaux-arts, le travail n'est pas fait du point de vue des professionnels de l'art, aussi bien portugais que internationaux, mais par une méconnaissance de l'art.
Oui, vous évoquiez le théâtre portugais qui est très bien représenté en France.
Exactement.
Thiago Rodrigues est le directeur du Festival d'Avignon. Emmanuel de Marcimota à la tête du Théâtre de la Ville.
Exactement. On n'a pas des gens comme ça pour les beaux-arts, pour l'art en France venu du Portugal.
Alors que pendant la Renaissance, Lisbonne a été une capitale artistique de renom.
Complètement. Malheureusement, beaucoup de grands accidents dans l'histoire, comme le tremblement de terre de 1755 et d'autres, ont beaucoup détruit de patrimoine artistique que l'on avait au Portugal, la grande richesse du 16e siècle, du 15e et 16e siècle portugais. On a une véritable école complètement méconnue à redécouvrir, bien que une exposition ait mis un peu en lumière la peinture portugaise du 16e siècle, ce qu'on appelle les primitifs au Louvre l'année dernière. C'est une école qui est encore complètement méconnue et qui est une véritable école. On peut parler pour le 16e siècle portugais, pour la peinture, d'une école au même titre que l'école espagnole, que l'école française ou italienne. Par la suite, en peinture, les Portugais vont un petit peu suivre des courants. On peut les rapprocher parfois de la peinture espagnole selon l'histoire et la peinture française ou italienne. Mais pour le 16e siècle, on peut véritablement parler d'une école portugaise, ce que l'on appelle donc les primitives. C'est ce qui a intéressé le Louvre. C'était un travail de longue haleine que l'on a fait durant vraiment des années avec mes anciens collègues du musée du Louvre pour les intéresser. Donc il a fallu les amener souvent au Portugal et il a fallu leur parler souvent de la peinture portugaise, leur faire comprendre que vraiment il y avait une école. Ils l'ont compris finalement et désormais les primitifs portugais sont considérés comme une école à part entière portugaise et je crois que c'est l'acquisition qui a été faite du musée du Louvre cette année d'un primitif portugais. C'est un événement très important qu'il faut vraiment marquer puisque maintenant la plupart des musées internationaux s'intéressent à la peinture portugaise du 16e siècle, ils veulent en acquérir. La complication, ça va être de les trouver.
Et on va en parler justement, et il a fallu aussi leur offrir une toile. En 2016, vous avez offert une toile de Joseph d'Orbidouge au musée du Louvre, qui a rejoint son père.
Exactement. Alors, en effet, le seul tableau, il y avait un petit séquel là qui était dans les réserves, qui maintenant a été sorti, mais jusqu'alors, le seul tableau qui était exposé portugais au Louvre, c'était Baltasar Gomes Figueira, sa fille, Josefa d'Orbe, du XVIIe siècle portugais, une femme incroyable, complètement émancipée, qui a une histoire aussi intéressante, passionnante qu'une Artemisia Gentileschi, qui est cette femme peintre italienne du XVIIe siècle, dont tous les musées sont friands. Josefa d'Obidos aussi, maintenant elle est reconnue internationalement. Je vais vous dire une chose, le Metropolitan, le Rijksmuseum, Chicago, plusieurs musées m'ont contacté en me demandant des Josefa d'Obidos. J'en ai vendu une il y a 2 ans à Maastricht, à TEFAF, à Dallas, au musée. Ils cherchent tous maintenant des Josefa d'Obidos, parce que finalement, le Louvre ayant acquéri, puisque dans le fond je l'ai offert, mais ils l'ont fait rentrer dans leur collection, et exposé un Josefa d'Obidos, tout le monde maintenant veut un Josefa d'Obidos. Mais ce cas est vraiment très intéressant parce que, regardez, c'est une femme peinte qui était complètement méconnue, très intéressante, une histoire passionnante. En dehors du Portugal, personne ne la connaissait. Sa valeur financière était très, disons, raisonnable. C'était des prix pas très élevé au Portugal, même pour des toiles très importantes. Un chef-d'œuvre, celui que j'ai acquis, passe à New York. Je l'achète à un prix déjà assez fort parce que c'était vraiment un chef-d'œuvre et parce que c'était une femme peintre et qu'on était dans la mode de la peinture féminine, enfin des artistes féminins. Tout le monde maintenant veut des artistes féminins, c'est le côté woke. Mais ça fait un grand prix. Je l'ai offert au Louvre. À partir de là, tout le monde a voulu des Josefa d'Obidos. Derrière le musée de Porto, avec qui je me suis mis en contact rapidement, on achète un autre qui passe dans la même vente à New York, un an après, qui explose également la valeur. Et le musée de Détroit a multiplié par 5 la valeur que j'avais payé moi à New York pour acheter l'année dernière un Josefa d'Obidos pour que ça rentre dans ses collections. Désormais, tous les musées américains veulent des Josefa d'Obidos, ils sont prêts à payer un prix déraisonnable presque pour l'art portugais. Tout ça pour conclure que plus on parle, plus on internationalise l'art et la peinture, dans ce cas-là portugaise, plus elle sera reconnue et mieux connue.
Philippe Hendès, nous allons continuer notre entretien dans un instant, mais pour le moment, marquez une courte pause. Philippe Mendes, vous avez en octobre dernier vendu une peinture au Louvre. Ce n'est pas rien. Une résurrection du Christ, œuvre datant des années 1540 et que l'on attribue à Garcia Fernandes et Cristóvão de Figueiredo. C'est la première peinture portugaise que le Louvre achète. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance portugaise, un Christ vêtu d'un drapé rouge, flamboyant, tout juste ressuscité devant les soldats romains ahuris. Racontez-nous l'histoire de votre rencontre avec ce tableau et de sa vente au Louvre.
Alors, le mot important, c'est vraiment vente. C'est acquisition par une institution internationale aussi importante que le Louvre. Parce que, en effet, le fait que le Louvre consacre une partie de son budget d'acquisition pour acheter une œuvre portugaise, c'est un signe très important que le Louvre, dans le fond, lance au monde. Ils sont prêts à consacrer un financement important pour de la peinture portugaise. Ça, c'est vraiment, vraiment la grande victoire. Parce que, en effet, il y avait déjà un tableau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Baltasar Gomes Figueira, qui était au Louvre, qui avait été une donation faite dans les années 70, si je ne me trompe, ou 80, par un collectionneur français. Ensuite, le Josefa d'Obidos, que j'ai donné également au musée du Louvre. Tout ça, le Louvre l'accepte avec bon cœur, puisqu'ils estiment que c'était de la très bonne peinture. Mais là, le fait qu'ils achètent une œuvre, ça, c'est vraiment le début, finalement, de l'internationalisation et de la reconnaissance de la peinture portugaise par les grandes institutions. C'est cette acquisition, c'est cette rentrée de ce tableau primitif au portugais au Louvre qui a fait que, tout d'un coup, l'attention de tous les musées américains ou autres internationaux se soient finalement concentrés sur la peinture portugaise. Et ça, c'est vraiment le point important. Après, le tableau, c'est véritablement un chef-d'œuvre de la Renaissance portugaise, peint durant le règne de Dom João III, Dom João Jean III du Portugal, durant les grandes, encore époque des grandes épopées maritimes. Le tableau, je l'ai lors de mes nombreux voyages à Lisbonne, Portugal en général, mais à Lisbonne, là j'étais à Lisbonne, je l'ai vu passer dans une vente aux enchères à Lisbonne, déjà avec une intéressante étude qui avait été faite par les grands spécialistes, professeurs de la peinture portugaise du XVIe siècle. Il avait été... la valeur qui avait été donc convenue par les vendeurs durant la salle des ventes, durant la vente, était déjà assez forte pour la peinture portugaise. C'était 100 000 euros. Mais il était évident, quand j'ai vu l'œuvre, que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, beaucoup plus, qu'il fallait aller bien plus loin dans l'étude de l'œuvre. Donc je l'ai acheté en me disant, voilà, c'est peut-être le moment pour faire rentrer au Louvre, parce que c'est immédiatement au Louvre que j'ai pensé, enfin, un tableau du XVIe siècle portugais, de la Renaissance portugaise. Donc, j'en ai fait l'acquisition, j'ai amené en France, je l'ai fait étudier avec toutes les techniques, technologies qu'encore au Portugal, on utilise peu, réflectographie, radiographie, on a fait tout type d'analyse scientifique. Alors, la réflectographie, qui est une sorte de radiographie où l'on voit ce qui se passe derrière la peinture, on a trouvé tout un dessin, le dessin sous-jacent, qui indiquait qu'il y avait l'intervention de donc au moins deux mains, Garcia Fernandes et Cristóvão de Figueiredo, un dessin fantastique qui montre également comment fonctionnait la peinture, la création de la peinture portugaise au VIe siècle à Lisbonne, dans un atelier royal où les peintres intervenaient et travaillaient les uns avec les autres. Donc ce tableau était un véritable cas d'école pour comprendre la peinture du XVIe siècle portugais. C'est exactement ça qui a intéressé le Louvre. Ils se sont dit, intrinsèquement, la qualité picturale de l'œuvre est fantastique. En plus, on a tout ça derrière comme discours, pour mieux comprendre la peinture portugaise du XVIe siècle. Évidemment, quand ils ont vu qu'il s'agissait là d'un chef-d'œuvre, ce qui n'avait heureusement pas bien été compris par les historiens ou les spécialistes, les professionnels de l'art portugais, parce que comme ils n'ont pas bien compris l'œuvre, ils l'ont laissé sortir du Portugal. Donc j'ai eu un permis de sortie de territoire, ce qui est très compliqué à obtenir au Portugal, puisqu'ils ont cette tendance toujours à ne rien laisser sortir d'important. Donc, l'œuvre est sortie, j'avais toutes les clés en main pour que le Louvre en fasse l'acquisition. Je l'ai exposé, après donc toute l'étude que l'on a faite, à Maastricht, à la foire la plus importante d'art dans le monde, au mois de mars dernier, à la TEFAF. Le Louvre l'a vu et le processus d'acquisition s'est mis en marche et quelques mois après, ils en ont fait l'acquisition. Et maintenant, il est au milieu... pour l'instant, de la peinture espagnole, mais très bien représentée comme un chef-d'œuvre de l'école portugaise du XVIe siècle.
Un combat qui aura duré 6 mois.
Un combat long, très compliqué. Parce qu'à vrai dire, il y a tout un processus aussi compliqué administratif et même artistique de la part des musées français. D'abord, il a fallu quand même mieux faire comprendre l'œuvre aux différents, parce que évidemment la conservatrice chargée des peintures portugaises du Louvre, et espagnole et portugaise du Louvre, a très vite compris l'œuvre, mais au sein de cette institution parisienne, le Louvre, tous les conservateurs doivent être d'accord. C'est l'unanimité qui prime. Donc tous devaient accepter l'acquisition. Donc il a fallu presque convaincre tout le monde de l'importance de ce tableau, jusqu'à sa présidente qui est venue le voir un mois avant que donc la vente se fasse et qui a compris en voyant le tableau devant elle la qualité et la beauté de l'œuvre. Après, il a fallu également, c'était très compliqué parce qu'en France maintenant avec le problème des restitutions des œuvres d'art volées durant la Deuxième Guerre mondiale ou même avec les problèmes de sortie de territoire des différents pays, il a fallu que je donne toutes les preuves que le tableau était bien sorti du Portugal de manière légale. Il a fallu également que je trouve la provenance pour la Seconde Guerre mondiale. En fait, je vais tout vous dire, l'œuvre était pratiquement vendue et à la dernière minute, la conservatrice du Louvre m'appelle, il me dit, voilà, il faut absolument qu'on ait un document, quelque chose, une preuve, qui nous prouve que l'œuvre, durant la Deuxième Guerre mondiale, était dans une famille portugaise ou n'avait pas été volée. Voilà, c'est un tableau portugais qui était au Portugal. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a quand même pas eu beaucoup de spoliation au Portugal, donc il y a peu de problèmes, normalement, de ce point de vue-là. Elle m'a dit, mais non, Philippe, on a vraiment besoin de...
Une preuve
matérielle. Il faut que ce soit un document quelconque. Ce que je n'avais absolument pas. L'œuvre était dans la famille depuis toujours. Ils l'ont mis en vente, là, il y a 2 ans. J'ai dit, écoute, mais j'ai pas. Donc, c'était fini, c'était trop tard. Donc, trop tard, non, c'était rangé. On ne pouvait plus... Le Louvre ne pouvait plus acquérir. J'étais à Lisbonne, je suis parti à Lisbonne, un week-end, et je parlais avec un de mes amis conservateurs à Lisbonne dans une soirée, et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un problème, ce tableau que le Louvre voudrait acheter, mais je ne peux pas le vendre parce que je n'ai pas de preuves ou de documents qui attestent que durant la Deuxième Guerre mondiale, il n'avait pas de problème de provenance. En parlant avec lui, à côté, il y avait un jeune homme, qui me dit, mais attendez, ce tableau dont vous parlez, il appartenait à ma grand-mère. Mais vraiment, un fait du hasard. J'ai dit, écoutez, comment ? Il m'a dit, mais attendez, il appartenait à ma grand-mère. Et je crois, peut-être qu'on a des choses concernant le tableau et son histoire. Donc, il appelle le lendemain sa famille, sa tante, quelqu'un, et qui lui dit, mais oui, on a plein de photos de famille avec le tableau. Et donc, il me trouve une photo des années 40, où il y a toute la famille qui a été prise en photo devant le tableau. On voit à l'arrière-plan le tableau. Et ça a été fait durant donc les années 40. J'ai envoyé la photo au Louvre qui m'a dit, voilà, c'est tout ce dont on avait besoin. Maintenant, on peut enfin acheter le tableau. Donc, vous voyez, parfois, ça tient à peu de choses. Une photo de famille qui a fait que finalement, regardez, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça aurait pu ne pas se faire. Et grâce à cette photo, tout d'un coup, la peinture portugaise est maintenant reconnue internationalement. Enfin, je veux dire, parfois, ça tient presque à rien. Et c'est ça qui est le sel, finalement, de ce métier.
Et quelque chose qu'il est ici important de souligner, que si le Louvre acquiert des œuvres portugaises, ce n'est pas simplement une question de représentation dans le plus grand musée du monde, mais c'est ce dont vous parliez, c'est surtout la possibilité d'une plus-value. Ce serait un gain énorme pour la connaissance, pour la recherche, pour le milieu de l'art. C'est un motif de fierté pour le Portugal. Si actuellement 5 peintures portugaises trônent au Louvre, bien sûr, mais en réalité, tout le monde y gagne.
Ah bah oui, tout le monde. Mais également les propriétaires des œuvres, qui finalement voient une reconnaissance des œuvres qu'ils possèdent, une reconnaissance non seulement artistique, mais également financière. Tout ça a fait également monter considérablement la valeur des œuvres et de l'art portugais. C'est parce que des institutions aussi importantes comme que celle-ci ou des musées américains veulent maintenant des œuvres portugaises que finalement la valeur financière augmente également. Et quand la valeur financière d'une œuvre augmente, ou d'un artiste, sa reconnaissance aussi. Et quand la reconnaissance d'un artiste, il faut, par exemple, Josefa do Bidos, maintenant c'est pas le primitif portugais, on va voir bientôt, c'est d'actualité, également Antonio Scala, c'est parce que tout d'un coup il y a ces focus qui sont faits sur des artistes importants que tout d'un coup l'art portugais va être recherché et donc mieux considéré. Donc, la valeur financière d'une œuvre contribue également à sa reconnaissance artistique. Il ne faut pas se le cacher, c'est ça aussi. C'est parce qu'un Rembrandt vaut des millions que tout le monde veut des Rembrandts. Mmh. Et que tout le monde veut... Non, mais que tout le monde s'intéresse à Rembrandt. Évidemment que c'est un artiste hors pair, fantastique, exceptionnel et le meilleur peintre hollandais du XVIIe siècle. Mais c'est parce qu'il est ça que sa valeur financière était aussi très importante. Et parce que sa valeur financière est très importante, ça lui donne une sorte d'aura, ça lui donne une sorte d'intérêt, de curiosité du grand public qui considère davantage l'artiste. Donc il faut savoir passer par tout ça et donner une valeur financière aux œuvres d'art et surtout les défendre de façon à ce qu'elles soient mieux considérées. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Josefa do Bidos, en gros, c'était des tableaux qui étaient vendus 20-30 000 euros. Mmh. Plus 50 000 euros il y a 10 ans, qui tout d'un coup est monté à 200 000 quand New York décide de vendre aux enchères un tableau, que le Louvre l'achète. Tout d'un coup, le musée de Dallas en a voulu un aussi à 500 000 et Détroit a acheté il y a 2 ans pour 1 million. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, tout le monde veut des affaires d'Obidos. Enfin, toutes les grandes institutions. Mm-hmm. Vous voyez, c'est ce travail-là qui est important de faire, non pas seulement pour des raisons financières, mais de reconnaissance de toute la peinture portugaise avec tous les autres artistes importants portugais. On n'en a pas beaucoup, il ne faut pas non plus leurrer. On a quelques dizaines de grands peintres ou artistes portugais, 3 ou 4 par siècle, du 16e au 20e siècle. Et c'est ceux-là qu'il faut défendre parce qu'ils seront les locomotives de tout l'art portugais.
Assez d'artistes pour qu'un jour il existe une salle de peinture portugaise, exclusivement portugaise, au Louvre ?
On a failli, à chaque, depuis 2-3 ans, toucher du doigt la salle portugaise. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui fonctionne pas encore, mais on va y arriver. L'idée, c'est d'avoir une salle consacrée à la peinture portugaise au musée du Louvre. C'est finalement de retirer, et je n'ai rien contre parce que j'adore la peinture espagnole, mais c'est de retirer à la peinture espagnole les peintures portugaises et les mettre ensemble pour créer une école, une salle portugaise. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas d'avoir beaucoup de tableaux portugais au Louvre, c'est d'avoir, quand vous rentrez au Louvre, un plan, comme il existe à chaque fois que vous rentrez dans un musée et au Louvre, un plan où vous pouvez voir école hollandaise, école française, école anglaise et aussi école portugaise. En gros, il y aura peut-être 6, 7, 8, espérons plus, mais tableaux, mais surtout sur le plan, il y aura art portugais. Et c'est ça qui est important pour le moment.
Oui, à l'image de ce qui a été fait l'année dernière au Louvre dans le cadre de la saison croisée France-Portugal, où on avait une salle avec une quinzaine d'œuvres, mais qui était déjà largement suffisante.
Voilà, c'est une exposition qui aurait dû être plus importante. Hein. On travaillait sur cette exposition depuis des années avec l'ancien conservateur des peintures portugaises et espagnoles du Louvre, qui est un ami, qui est maintenant aux États-Unis à l'Hispanic Society de New York. Et en fait, on rêvait d'une grande exposition consacrée au primitif portugais au Louvre, d'une trentaine à quarantaine d'œuvres. Mais pour des raisons de complications venant, comme c'est souvent le cas, du Portugal.
Et on va en parler.
Oui, du Portugal. Eh bien, ça a toujours un peu, ça a toujours été un projet qui a avorté petit à petit pour des raisons de complications administratives, diplomatiques et autres et autres. Et l'exposition ne se faisait pas. Elle a failli ne pas avoir lieu. On a réussi à la rattraper à la dernière minute pour la saison croisée, mais on n'a pu faire qu'une petite exposition d'une quinzaine, c'est ça ?
Oui.
D'une quinzaine de tableaux, mais qui a permis de tirer l'attention et éclairer la peinture portugaise du XVIe siècle et surtout donner envie aux autres musées de s'intéresser à notre peinture.
Oui, vous évoquiez une exposition qui s'appelait « L'âge d'or de la Renaissance portugaise » qui s'est donc tenue du 10 juin au 10 septembre dernier dans l'aile Richelieu du musée du Louvre et qui présentait une quinzaine d'œuvres venant du musée national de Arte Antiga de Lisbonne avec des artistes comme Nuno Gonçalves, Jorge Afonso, Cristóvão de Figueiredo et Gregório Lopes. Depuis novembre 2023, Filipe Mendes, vous faites partie au Portugal du Conselho de Curadores da Nova Empresa Pública Museus e Monumentos de Portugal, autrement dit, le conseil d'administration de l'entreprise publique des musées et monuments du Portugal. Racontez-nous cette nouvelle expérience.
La demande a été faite en novembre et j'ai accepté, donc c'est depuis janvier. J'ai accepté pour essayer d'avoir une action un peu plus directe sur toujours cette idée de l'internationalisation de l'art portugais. Mmh. Je me suis dit que de l'intérieur, peut-être que j'aurais un peu plus d'écoute ou d'attention. Et ce que j'espère et je pense sera le cas. L'idée, c'est d'essayer de donner des clés, essayer de créer un réseau international. J'ai accepté pour 2 raisons. 2 axes. Mmh. Et j'ai bien été clair avec le ministre quand je l'ai eu au téléphone, quand on en a parlé. J'ai dit, écoutez, j'accepte. J'ai beaucoup de choses à faire en France. J'ai mon métier qui est très prenant, très compliqué. Mais 2 axes. Mécénat et internationalisation de l'art portugais. Créer un réseau international professionnel de musées ou même collectionneurs de façon à ce que on essaie de faire plus d'expositions consacrées à l'art portugais dans le monde et que l'art portugais soit mieux connu du point de vue international. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, c'est d'essayer de de, comment dirais-je, sensibiliser le Portugal à l'idée de mécénat culturel. Je sais qu'à chaque fois, quand je parle au Portugal avec les différents professionnels, ils me disent « mais tu sais, on a une loi mécénat qui est intéressante, ça y est, ça existe ». Mais ce n'est pas vraiment le cas. J'essaie toujours de les convaincre qu'il faut créer une loi de mécénat culturel au Portugal. Il y a effectivement une loi consacré au mécénat, mais c'est le mécénat en général. Éducation, santé, et tout type de mécénat. Et donc, dans cette loi consacrée au mécénat, il y a une partie pour le mécénat culturel. Il faut, à l'image de la France, ou de l'Italie, ou même du Brésil, par exemple, créer une loi mécénat culturel qui permette de mettre en place les bases d'une bonne politique de mécénat qui puisse aider et les musées et toujours cette idée d'internationalisation de l'art portugais.
J'ai cru comprendre que l'État portugais n'apprécie pas l'idée que ces tableaux quittent le pays, aillent remplir les musées internationaux. Pourquoi le Portugal ne laisse-t-il pas ces tableaux partir ?
Il y a toujours cette sorte de syndrome portugais du petit pays qui protège le peu qu'il a. C'est presque une lutte pour essayer de leur faire comprendre que c'est pas ça du tout. Et effectivement, je comprends que des pays comme la Hollande, qui n'est pas plus grand que le Portugal, je crois que c'est même plus petit, peut-être un peu plus d'habitants, ou la Belgique, qui a moins d'habitants, je comprends que ces pays essayent de récupérer, de acheter à l'étranger des œuvres qui leur ont échappé ou d'enrichir à nouveau, de continuer à enrichir leur musée. Mais et la peinture hollandaise ou flamande, par exemple, il y a beaucoup de choses dans les musées internationaux, vous voyez. Donc, il y a déjà une lecture de l'art de ces pays-là dans tous les grands musées internationaux. Nous, on n'en a pas. Donc, je ne vois pas pourquoi on va aller essayer d'empêcher les tableaux de sortir ou d'aller les acquérir à l'étranger, parce qu'on ne va pas pouvoir parler dans deux minutes, si vous voulez, du cas actuel concernant le Sequeira. Je ne vois pas pourquoi on essaye d'aller d'interdire la sortie ou d'aller acheter pour qu'on ramène vers nous notre patrimoine, parce que c'est le patrimoine. Non, au contraire, il faut le laisser sortir, il faut le laisser sortir souvent avec des conditions sine qua non, quand c'est la rentrée dans les grands musées internationaux quand il s'agit de chefs-d'œuvre ou d'œuvres très importantes, ou sinon laisser sortir pour que le marché puisse s'alimenter et valoriser ses œuvres. Alors,
parlez-nous justement maintenant de António Sequeira.
Regardez, au même titre que Joseph Adorbe ou du primitif portugais que vous avez évoqué tout à l'heure, qui en général est représentatif du XVIe siècle portugais, il faut créer des focus, il faut créer comme ça des attentions très fortes sur un artiste. Il y a, comme je vous l'ai dit, peu d'artistes important au Portugal. António Domingos Sequeira en est un, de la fin du XVIIIe siècle portugais, très important. C'est un artiste qui est méconnu, évidemment, en dehors du Portugal, et encore au Portugal, peu le connaissent, un peu plus en ce moment, puisque tout le monde s'intéresse au cas Sequeira, et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, c'est parce que, tout d'un coup, on va laisser, j'espère, un grand musée international acheter un tableau important de cet artiste, qu'il sera reconnu internationalement et qu'il va attirer également l'attention sur le 18e portugais. Vous voyez, Joseph Adobidos, 17e siècle, tout d'un coup le 17e siècle portugais, qu'est-ce qui se passe au 17e siècle ? Primitif portugais qui rentre au Louvre, qu'est-ce qui se passe au 16e siècle au Louvre, au Portugal ? Pour António Sequeira, c'est 18e siècle, si tout d'un coup l'attention se porte sur cet artiste, internationalement, on va s'intéresser au XVIIIe siècle portugais. C'est ça le processus qu'il faut toujours laisser faire, vous voyez. Et en fait, il s'agit d'un tableau qui faisait partie d'un ensemble de quatre œuvres qui ont été les quatre derniers tableaux peints par António Domingos Sequeira à Rome vers 1830. Pour la famille Palmela, pour le duc de Palmela, qui les avait commandés depuis Lisbonne. Les tableaux sont rentrés dans la famille Palmela à Lisbonne et sont restés jusqu'à il y a peu de temps. Avec ces ce processus de succession que toutes les familles connaissent, les quatre tableaux se sont, il y a quelques années, divisés par branches de la famille Palmela. Donc, chacune des branches est restée avec un tableau. Un a été acheté par le musée d'art ancien, il y a une quinzaine d'années, dizaine peut-être. On en a fait grand, grand bruit au Portugal, puisque c'était un chef-d'œuvre. Donc, de ce Sequeira qui était acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient intitulé ça « Vamos por o Sequeira no lugar certo ». Et la place exacte de ce tableau que les musées, que le Portugal voulait donner, c'était le musée d'art ancien de Lisbonne. Et c'était effectivement sa juste place. Le tableau avait été évalué alors et tout le monde disait « Mais c'est une valeur considérable, c'est trop cher, comment l'État peut acheter une œuvre aussi importante ?» C'était 600 000 euros. Effectivement, pour l'époque, c'était énorme. Mais Sequeira le vaut bien. Le tableau a été acheté par le musée d'art ancien. Et puis, les trois autres sont restés dans les autres familles. Il se trouve que les autres membres de la famille, certains, pensaient depuis peu à vendre le leur. Effectivement, aussi bien l'opinion professionnelle des musées portugais que celle plus officiel du gouvernement, se disait que c'était un prix trop élevé, 600 000, et qu'il fallait essayer peut-être d'acquérir l'œuvre pour moins. Sauf que ce sont des chefs-d'œuvre et que ça vaut bien plus si ces tableaux étaient sur le marché international, vous voyez. Alors, ce protectionnisme de l'œuvre de l'art portugais, qui est intéressant quand il s'agit de chefs-d'œuvre comme celui-ci, est compréhensif, bien sûr, mais il dévalorise financièrement les œuvres, ce qui, à l'égard des propriétaires, c'est pas très sympa, puisque finalement, ils ont des œuvres qui sont dont on leur donne une valeur de environ, et là, de manière très concrète, de 500 à 600 000 euros, et qui pouvaient valoir le double s'ils étaient à l'extérieur du pays. Ça fait un an que j'essaie de travailler sur ces deux tableaux, des quatre, parce que la famille et les membres de la famille s'étaient mis en contact avec moi, de façon à convaincre aussi bien le gouvernement portugais actuel, les ministres ou les professionnels de l'art portugais, donc des musées, notamment la direction du musée d'art ancien, qu'il fallait laisser sortir ses œuvres, mais avec une condition, mais presque sine qua non, qu'elles aillent, qu'elles rentrent dans les grands musées internationaux. Et j'avais pensé que l'un aurait pu rentrer au musée du Louvre. Je me suis mis en contact avec le musée du Louvre, qui nous a dit qu'effectivement, ce serait très intéressant et important pour eux d'avoir un chef-d'œuvre aussi important. J'ai contacté également le Metropolitan, qui, effectivement, était tout à fait ouvert à l'idée d'en acquérir un aussi. Et vous voyez, en fait, il fallait laisser sortir ces deux tableaux de manière très organisée, aussi bien politiquement, administrativement et presque financièrement, de façon à ce qu'ils aillent dans ces musées-là. Malheureusement, un des membres de la famille a fait une bêtise énorme, c'est qu'il s'est mis en contact avec une galerie espagnole, qui a vu tout de suite une affaire formidable, et qui en a fait la demande de sortie de territoire. Et avec ce changement dans la structuration, dans l'administration du ministère de la Culture au Portugal que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a eu des incompréhensions qui ont été faites et la sortie de territoire a été accordée pour ce tableau, mais accordée sans aucune condition, comme ça. Voilà, le tableau s'est retrouvé en Espagne et là, en ce moment, le Portugal vit un grand scandale culturel parce que l'opinion publique est complètement partagée entre il faut laisser sortir, il faut absolument le récupérer, c'est un scandale parce qu'il aurait pas dû sortir, c'est un scandale parce que maintenant il vaut beaucoup plus cher, c'est un scandale parce que l'État doit aller l'acheter. En plus, nous sommes dans une période préélectorale, donc évidemment il faut montrer que on a la capacité de récupérer finalement une bêtise énorme administrative qui a été faite, que le Portugal est capable de défendre sa propre peinture et d'aller racheter le tableau à l'extérieur. Alors, le tableau est dans une galerie espagnole, il va être exposé dans 10 jours maintenant à la TEFAF à Maastricht, où je serai aussi, par cette galerie espagnole. Maintenant, que faut-il faire de ce tableau? Je veux dire, à partir du moment où la bêtise a été faite, il faut essayer de s'en sortir le plus J'avais envie.
Dignement.
Dignement possible, effectivement. Et ce serait génial, et je suis en contact permanent, toujours avec le Metropolitan, que New York achète ce tableau, que le Metropolitan achète ce Sequeira. Ce serait formidable pour la peinture portugaise. Ce serait formidable pour le Sequeira. Ce serait formidable parce que il ferait un peu le dialogue, le pont, l'écho à celui qui est déjà au musée d'art ancien. Et imaginez maintenant que l'autre soit, par exemple, au musée du Louvre un jour. Ce serait donc une sorte de triangle Paris, Lisbonne, New York, où des chefs-d'œuvre de Sequeira seraient finalement dans les trois grands principaux musées du monde. Alors, ça, ce serait vraiment l'idéal. Sauf que ce scandale qui s'est installé dans la presse portugaise autour de ce tableau fait que, pour des raisons diplomatiques, pour des raisons de politiquement correctes, les musées internationaux, et là, en l'occurrence, le Metropolitan, n'a plus envie, se sont un petit peu gênés par l'acquisition de l'œuvre, parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes diplomatiques ou des problèmes de même de... Parce que là, aujourd'hui, dans la presse, une heure avant que je vienne ici, je viens de lire dans le Public au Portugal, il paraît que l'État portugais va faire recours auprès des tribunaux espagnols pour récupérer l'œuvre, parce que pour le permis a été mal fait. Enfin, je veux dire, c'est là devient une affaire complètement inextricable, complètement presque ridicule. Tout d'un coup, l'État portugais va faire un recours contre une action de sa propre administration. Je veux dire, il y a une décision qui a été donnée par sa propre administration, et là, il fait recours en disant, ça a été mal fait, et finalement, on va auprès des tribunaux espagnols pour essayer de récupérer la chose, pour avoir le tableau, pour qu'il revienne, et autres. Enfin, je veux dire, à partir de là, ça devient presque... quelque chose de internationalement ridicule. Donc je pense que la meilleure façon maintenant, ce serait de tout faire pour que le tableau puisse rentrer dans une grande institution internationale et de sortir le mieux possible de ça. Mais tout ce qui est en train de se faire là, tout ce bruit assez scandaleux fait que les musées n'ont plus envie, et ça sera un échec pour l'art portugais en général, pour les musées portugais, pour la peinture, pour notre peinture, et c'est dommage. Alors, ça a permis une chose, c'est que le Sequeira, qui est rentré au musée d'art ancien il y a une dizaine d'années, l'a été pour 600 000 euros, et que celui-ci, maintenant, la galerie espagnole en demande minimum 1 million 2, je sais qu'ils sont à plus, qu'ils en demandent 2 millions, pour éventuellement laisser 1 million 2, mais ils en demandent 2 millions, ce qui, quelque part, montre que quand les tableaux sortent, quand ils sont sur
le marché international, ils prennent de la valeur.
Ils prennent énormément de valeur. Donc, que la peinture et l'art portugais est considérée à une juste valeur et qu'elle n'a pas quand elle est dans le pays même. Donc ça a permis de voir ça. Parce que l'État portugais, si maintenant il veut vraiment acquérir le tableau, ça ne sera plus à 600 000, mais à minimum 1 million 2. À moins de faire un recours qui fonctionne et que le tableau ne sera jamais vendu et il va repartir dans la famille, ce qui serait dommageable pour tout le monde.
Et le cas Antonio Sequeira va devenir très certainement un cas d'école. Merci beaucoup Philippe Mendes d'avoir accepté cette invitation sur Radio Alpha.
C'est avec un grand plaisir.